Troisième chapitre. Deuxième partie, la fleur sacrée. Quelques jours après que Monsieur le Chien nous eut raconté son histoire, nous nous retrouvions avec lui chez un Anglais riche qui avait beaucoup voyagé en Asie et qui parlait volontiers des choses intéressantes et curieuses qu'il avait vues. Comme il nous disait la manière dont on chasse les éléphants dans le Laos, Monsieur le Chien lui demanda s'il n'avait jamais tué lui-même un de ces animaux. « Jamais, » répondit Sir William, « je ne me le serais point pardonné. L'éléphant m'a toujours paru si près de l'homme par l'intelligence et le raisonnement que j'aurais craint d'interrompre la carrière d'une âme en voie de transformation. « Au fait, » lui dit quelqu'un, « vous avez longtemps vécu dans l'Inde, vous devez partager les idées de migration des âmes que monsieur nous exposait l'autre jour d'une manière plus ingénieuse que scientifique. « La science est la science, » répondit l'Anglais. « Je la respecte infiniment, mais je crois que, quand elle veut trancher affirmativement ou négativement la question des âmes, elle sort de son domaine et ne peut rien prouver. Ce domaine est l'examen des faits palpables d'où elle conclut à des lois existantes. Au-delà, elle n'a plus de certitude. Le foyer d'émission de ces lois échappe à ses investigations et je trouve qu'il est également contraire à la vraie doctrine scientifique de vouloir prouver l'existence ou la non-existence d'un principe quelconque. En dehors de sa démonstration spéciale, le savant est libre de croire ou de ne pas croire, mais la recherche de ce principe appartient mieux aux hommes de logique, de sentiment et d'imagination. Les raisonnements et les hypothèses de ceux-ci n'ont, il est vrai, de valeur qu'autant qu'ils respectent ceux que la science a vérifiés dans l'ordre des faits. Mais là où la science est impuissante à nous éclairer, nous sommes tous libres de donner aux faits ce que vous appelez une interprétation ingénieuse, ce qui, selon moi, signifie une explication idéaliste fondée sur la déduction, la logique et le sentiment du juste dans l'équilibre et l'ordonnance de l'univers. Ainsi, reprit celui qui avait interpellé Sir William, vous êtes bouddhiste ? D'une certaine façon, répondit l'Anglais, mais nous pourrions trouver un sujet de conversation plus récréatif pour les enfants qui nous écoutent. Moi, dit une des petites filles, cela m'intéresse et me plaît. Pourriez-vous me dire ce que j'ai été avant d'être une petite fille ?
Vous avez été un petit ange, répondit Sir William.
Pas de compliment, reprit l'enfant. Je crois que j'ai été tout bonnement un oiseau, car il me semble que je regrette toujours le temps où je volais sur les arbres et ne faisais que ce que je voulais.
Eh bien, reprit Sir William, ce regret serait une preuve de souvenir. Chacun de nous a une préférence pour un animal quelconque et se sent porté à s'identifier à ses impressions comme s'il les avait déjà ressenties pour son propre compte.
« Quel est votre animal de prédilection ? Lui demandai-je.
« Tant que j'ai été anglais, répondit-il, j'ai mis le cheval au premier rang. Quand je suis devenu indien, j'ai mis l'éléphant au-dessus de tout.
« Mais, dit un jeune garçon, est-ce que l'éléphant n'est pas très laid ?
« Oui, selon nos idées sur l'esthétique. Nous prenons pour type du quadrupède le cheval ou le cerf. Nous aimons l'harmonie dans la proportion, parce qu'au fond nous avons toujours dans l'esprit le type humain comme type suprême de cette harmonie. Mais quand on quitte les régions tempérées et qu'on se trouve en face d'une nature exubérante, le goût change, les yeux s'attachent à d'autres lignes, l'esprit se reporte à un ordre de création antérieure plus grandiose, et le côté fruste de cette création ne choque plus nos regards et nos pensées. L'Indien noir, petit, grêle, ne donne pas l'idée d'un roi de la création. L'Anglais, rouge et massif, paraît là plus imposant que chez lui. Mais l'un et l'autre, qu'ils aient pour cadre une cabane de roseaux ou un palais de marbre, sont encore effacés comme de vulgaires détails dans l'ensemble du tableau que présente la nature environnante. Le sens artiste éprouve le besoin de formes supérieures à celles de l'homme, et il se sent pris de respect pour les êtres capables de se développer fièrement sous cet ardent soleil qui étiole la race humaine. Là où les roches sont formidables, les végétaux effrayants d'aspect, Les déserts inaccessibles, le pouvoir humain perd son prestige, et le monstre surgit à nos yeux comme la suprême combinaison harmonique d'un monde prodigieux. Les anciens habitants de cette terre redoutable l'avaient bien compris. Leur art consistait dans la reproduction idéalisée des formes monstrueuses. Le buste de l'éléphant était le couronnement principal de leur Parthénon. Leurs dieux étaient des monstres et des colosses. Leur architecture pesante, surmontée de tours d'une hauteur démesurée, semblait chercher le beau dans l'absence de ces proportions harmoniques qui ont été l'idéal des peuples de l'Occident. Ne vous étonnez donc pas de m'entendre dire qu'après avoir trouvé cet art barbare et ces types effrayants, je m'y suis habitué au point de les admirer et de trouver plus tard nos arts froids et nos types mesquins. Et puis tout dans l'Inde concourt à idéaliser l'éléphant. Son culte est partout dans le passé, sous une forme ou sous une autre. Les reproductions de son type ont une variété d'intentions surprenantes, car, selon la pensée de l'artiste, il représente la force menaçante ou la bénigne douceur de la divinité qui l'encadre. Je ne crois pas qu'il ait jamais été, quoi qu'en aient dit les anciens voyageurs, adoré personnellement comme un dieu, mais il a été, il est encore, regardé comme un symbole et un palladium. L'éléphant blanc des temples de Siam est toujours considéré comme un animal sacré. « Parlez-nous de cet éléphant blanc !» s'écrièrent tous les enfants. « Est-il vraiment blanc? L'avez-vous vu ?»« Je l'ai vu, et en le contemplant au milieu des fêtes triomphales qu'il semblait présider, il m'est arrivé une chose singulière. « Quoi ?» reprirent les enfants. « Une chose que j'hésite à vous dire, non pas que je craigne la raillerie en un sujet si grave, mais en vérité, je crains de ne pas vous convaincre de ma sincérité et d'être accusé d'improviser un roman pour rivaliser avec l'édifiante et sérieuse histoire de Monsieur le Chien. Dites toujours, nous ne critiquerons pas, nous écouterons bien sagement. Eh bien, mes enfants, reprit l'Anglais, voici ce qui est arrivé. En contemplant la majesté de l'éléphant sacré, marchant d'un pas mesuré au son des instruments et marquant le rythme avec sa trompe, tandis que les Indiens, qui semblaient être bien réellement les esclaves de ce monarque, balançaient au-dessus de sa tête des parasols rouges et or, j'ai fait un effort d'esprit pour saisir sa pensée dans son œil tranquille, et tout à coup il m'a semblé qu'une série d'existences passées, insaisissables à la mémoire de l'homme, venait de rentrer dans la mienne.
« Comment? Vous croyez ?»«
Je crois que certains animaux nous semblent pensifs et absorbés parce qu'ils se souviennent. Où serait l'erreur de la Providence ?»« L'homme oublie parce qu'il a trop à faire pour que le souvenir lui soit bon. Il termine la série des animaux contemplatifs. Il pense réellement et cesse de rêver. À peine né, il devient la proie de la loi du progrès, l'esclave de la loi du travail. Il faut qu'il rompe avec les images du passé pour se porter tout entier vers la conception de l'avenir. La loi qui lui a fait cette destinée ne serait pas juste si elle ne lui retirait pas la faculté de regarder en arrière et de perdre son énergie dans de vains regrets et de stériles comparaisons. « Quoi qu'il en soit, dit vivement Monsieur le Chien, racontez vos souvenirs. Il m'importe beaucoup de savoir qu'une fois en votre vie, vous avez éprouvé le phénomène que j'ai subi plusieurs fois.
« J'y consens, répondit Sir William, car j'avoue que votre exemple et vos affirmations m'ébranlent et m'impressionnent beaucoup. Si c'est un simple rêve qui s'est emparé de moi pendant la cérémonie que présidait l'éléphant sacré, il a été si précis et si frappant que je n'en ai pas oublié la moindre circonstance. » Et moi aussi, j'avais été éléphant, éléphant blanc qui plus est, éléphant sacré par conséquent, et je revoyais mon existence entière à partir de ma première enfance dans les jungles et les forêts de la presqu'île de Malacca. C'est dans ce pays, alors si peu connu des Européens, que se reportent mes premiers souvenirs, à une époque qui doit remonter aux temps les plus florissants de l'établissement du bouddhisme, longtemps avant la domination européenne. je vivais dans ce désert étrange, dans cette chersonèse d'or des anciens, une presqu'île de 360 lieues de longueur, large en moyenne de 30 lieues. Ce n'est, à vrai dire, qu'une chaîne de montagnes projetées sur la mer et couronnées de forêts. Ces montagnes ne sont pas très hautes. La principale, le mont Ophir, n'égale pas le Puy de Dôme, mais par leur situation isolée entre deux mers, elles sont imposantes. Les versants sont parfois inaccessibles à l'homme. Les habitants des côtes, malaises et autres, y font pourtant aujourd'hui une guerre acharnée aux animaux sauvages, et vous avez à bas prix l'ivoire et les autres produits si facilement exportés de ces régions redoutables. Pourtant, l'homme n'y est pas encore partout le maître, et il ne l'était pas du tout au temps dont je vous parle. Je grandissais heureux et libre sur les hauteurs, dans le sublime rayonnement d'un ciel ardent et pur, rafraîchi par l'élévation du sol et la brise de mer. Quelle était belle cette mer de la Malaisie, avec ses milliers d'îles vertes comme l'émeraude et d'écueils blancs comme l'albâtre sur le bleu sombre des flots. Quel horizon s'ouvrait à nos regards quand, du haut de nos sanctuaires de rochers, nous embrassions de tous côtés l'horizon sans limite. Dans la saison des pluies, nous savourions à l'abri des arbres géants la chaude humidité du feuillage. C'était la saison douce où le recueillement de la nature nous remplissait d'une sereine quiétude. Les plantes vigoureuses, à peine abattues par l'été torride, semblaient partager notre bien-être et se retremper à la source de la vie. Les belles lianes de diverses espèces poussaient leurs festons prodigieux et les enlaçaient aux branches des cinnamomes et des gardénias en fleurs. Nous dormions à l'ombre parfumée des mangliers, des bananiers, des baumiers et des cannelier. Nous avions plus de plantes qu'il ne nous en fallait pour satisfaire notre vaste et frugal appétit. Nous méprisions les carnassiers perfides. Nous ne permettions pas aux tigres d'approcher de nos pâturages. Les antilopes, les oryx, les singes recherchaient notre protection. Des oiseaux admirables venaient se poser sur nous par bandes pour nous aider à notre toilette. Le nocariam, l'oiseau géant, peut-être disparu aujourd'hui, s'approchait de nous sans crainte pour partager nos récoltes. Nous vivions seuls, ma mère et moi, ne nous mêlant pas aux troupes nombreuses des éléphants vulgaires, plus petits et d'un pelage différent du nôtre. Étions-nous d'une race différente? Je ne l'ai jamais su. L'éléphant blanc est si rare qu'on le regarde comme une anomalie, et les Indiens le considèrent comme une incarnation divine. Quand un de ceux qui vivent dans les temples d'une nation hindoue cesse de vivre, on lui rend les mêmes honneurs funéraires qu'au roi, et souvent de longues années s'écoulent avant qu'on lui trouve un successeur. Notre haute taille effrayait-elle les autres éléphants? Nous étions de ceux qu'on appelle solitaires, et qui ne font partie d'aucun troupeau sous les ordres d'un guide de leur espèce. On ne nous disputait aucune place, et nous nous transportions d'une région à l'autre, changeant de climat sur cette arête de montagne, selon notre caprice et les besoins de notre nourriture. Nous préférions la sérénité des sommets ombragés aux sombres embûches de la jungle peuplée de serpents monstrueux, hérissés de cactus et d'autres plantes épineuses, où vivent des insectes irritants. En cherchant la canne à sucre sous des bambous d'une hauteur colossale, nous nous arrêtions quelquefois pour jeter un coup d'œil sur les palétuviers des rivages. Mais ma mère, défiante, semblait deviner que nos robes blanches pouvaient attirer le regard des hommes, et nous retournions vite à la région des araignées et des cocotiers, ces grandes vigies plantées au-dessus des jungles, comme pour balancer librement dans un air plus pur leurs éventails majestueux et leurs palmes de 5 mètres de longueur. Ma noble mère me chérissait, me menait partout avec elle et ne vivait que pour moi. Elle m'enseignait à adorer le soleil et à m'agenouiller chaque matin à son apparition glorieuse en relevant ma trompe blanche et satinée, comme pour saluer le Père et le Roi de la Terre. En ces moments-là, l'aube pourprée teignait de rose mon fin pelage, et ma mère me regardait avec admiration. Nous n'avions que de hautes pensées, et notre cœur se dilatait dans la tendresse et l'innocence. Jours heureux, trop tôt envolés,
Un matin, la soif nous força de descendre le lit d'un des torrents qui, du haut de la montagne, vont en bonds rapides ou gracieux se déverser dans la mer. C'était vers la fin de la saison sèche. La source qui filtre du sommet de l'Ophir ne distillait plus une seule goutte dans sa coupe de mousse. Il nous fallut gagner le pied de la jungle, où le torrent avait formé une suite de petits lacs, pâles diamants semés dans la verdure glauque des nopals. Tout à coup, nous sommes surpris par des cris étranges, et des êtres inconnus pour moi, des hommes et des chevaux, se précipitent sur nous. Ces hommes bronzés qui ressemblaient à des singes ne me firent point peur. Les animaux qu'ils montaient n'approchaient de nous qu'avec effroi. D'ailleurs, nous n'étions pas en danger de mort. Nos robes blanches inspiraient le respect, même à ces malais farouches et cruels. Sans doute ils voulaient nous capturer, mais ils n'osaient se servir de leurs armes. Ma mère les repoussa d'abord fièrement et sans colère. Elle savait qu'ils ne pourraient pas la prendre. Alors, ils jugèrent qu'en raison de mon jeune âge, ils pourraient facilement s'emparer de moi, et ils essayèrent de jeter des lassos autour de mes jambes. Ma mère se plaça entre eux et moi et fit une défense désespérée. Les chasseurs, voyant qu'il fallait la tuer pour m'avoir, lui lancèrent une grêle de javelots qui s'enfoncèrent dans ses vastes flancs, et je vis avec horreur sa robe blanche se rayer de fleuves de sang. Je voulais la défendre et la venger. Elle m'en empêcha, me tint de force derrière elle, et présentant le flanc comme un rempart pour me couvrir, immobile de douleur et stoïquement muette, pour faire croire que sa vie était à l'épreuve de ses flèches mortelles, elle resta là, criblée de traits, jusqu'à ce que, le cœur transpercé cessant de battre, elle s'affaissa comme une montagne. La terre résonna sous son poids. Les assassins s'élancèrent pour me garrotter, et je ne fis aucune résistance. Stupéfait devant le cadavre de ma mère, ne comprenant rien à la mort, je la caressais en gémissant, en la suppliant de se relever et de fuir avec moi. Elle ne respirait plus, mais des flots de larmes coulaient encore de ses yeux éteints. On me jeta une natte épaisse sur la tête. Je ne vis plus rien. Mes quatre jambes étaient prises dans quatre cordes de cuir d'élan. Je ne voulais plus rien savoir. Je ne me débattais pas, je pleurais. Je sentais ma mère près de moi. Je ne voulais pas m'éloigner d'elle. Je me couchais. On m'emmena je ne sais comment et je ne sais où. Je crois qu'on attela tous les chevaux pour me traîner sur le sable en pente du rivage, jusqu'à une sorte de fosse où on me laissa seul. Je ne me rappelle pas combien de temps je restais là, privé de nourriture, dévoré par la soif et par les mouches avides de mon sang. J'étais déjà fort, j'aurais pu démolir cette cave avec mes pieds de devant et me frayer un sentier, comme ma mère m'avait enseigné à le faire dans les versants rapides. Je fus longtemps sans m'en aviser. Sans connaître la mort, je haïssais l'existence et ne songeais pas à la conserver. Enfin, je cédai à l'instinct et je jetai des cris farouches. On m'apporta aussitôt des cannes à sucre et de l'eau. Je vis des têtes inquiètes se pencher sur les bords du silo où j'étais enseveli. On parut se réjouir de me voir manger et boire. Mais dès que j'eus repris des forces, j'entrai en fureur et je remplis la terre et le ciel des éclats retentissants de ma voix. Alors on s'éloigna, me laissant démolir la berge verticale de ma prison, et je me crus en liberté. Mais j'étais dans un parc formé de tiges de bambou monstrueux, reliés les uns aux autres par des lianes si bien serrées que je ne pus en ébranler un seul. Je passai encore plusieurs jours à essayer obstinément ce vain travail auquel résistait le perfide et savant travail de l'homme. On m'apportait mes aliments et on me parlait avec douceur. Je n'écoutais rien. Je voulais fondre sur mes adversaires. Je frappais de mon front avec un bruit affreux les murailles de ma prison sans pouvoir les ébranler. Mais quand j'étais seul, je mangeais. La loi impérieuse de la ville emportait sur mon désespoir et, le sommeil domptant mes forces, je dormais sur les herbes fraîches dont on avait jonché ma cage. Enfin, un jour, un petit homme noir, vêtu seulement d'un sarong ou caleçon blanc, entra seul et résolument dans ma prison en portant une auge de farine de riz salée et mélangée à un corps huileux. Il me la présenta à genoux en me disant d'une voix douce des paroles où je distinguais je ne sais quelle intention affectueuse et caressante. Je le laissai me supplier jusqu'au moment où, vaincu par ses prières, je mangeais devant lui. Pendant que je savourais ce mets rafraîchissant, il m'éventait avec une feuille de palmier et me chantait quelque chose de triste que j'écoutais avec étonnement. Il revint un peu plus tard et me joua sur une petite flûte de roseau je ne sais quel air plaintif qui me fit comprendre la pitié que je lui inspirais. Je le laissai baiser mon front et mes oreilles. Peu à peu, je lui permis de me laver, de me débarrasser des épines qui me gênaient et de s'asseoir entre mes jambes. Enfin, au bout d'un temps que je ne puis préciser, je sentis qu'il m'aimait et que je l'aimais aussi. Dès lors, je fus dompté. Le passé s'effaça de ma mémoire et je consentis à le suivre sur le rivage sans songer à m'échapper. Je vécus, je crois, 2 ans seul avec lui. Il avait pour moi des soins si tendres qu'il remplaçait ma mère et que je ne pensais plus jamais à le quitter. Pourtant, je ne lui appartenais pas. La tribu qui s'était emparée de moi devait se partager le prix qui serait offert par les plus riches rajas de l'Inde dès qu'ils seraient informés de mon existence. On avait donc fait un arrangement pour tirer de moi le meilleur parti possible. La tribu avait envoyé des députés dans toutes les cours des 2 péninsules pour me vendre au plus offrant, et en attendant leur retour, j'étais confiée à ce jeune homme nommé Aor, qui était réputé le plus habile de tous dans l'art d'apprivoiser et de soigner les êtres de mon espèce. Il n'était pas chasseur, il n'avait pas aidé au meurtre de ma mère. Je pouvais l'aimer sans remords. Bientôt, je compris la parole humaine qu'à toute heure il me faisait entendre. Je ne me rendais pas compte des mots, mais l'inflexion de chaque syllabe me révélait sa pensée aussi clairement que si j'eusse appris sa langue. Plus tard, je compris de même cette musique de la parole humaine en quelques langues qu'elle arrivât à mon oreille. Quand c'était de la musique chantée par la voix ou les instruments, je comprenais encore mieux. J'arrivais donc à savoir de mon ami que je devais me dérober au regard des hommes, parce que quiconque me verrait serait tenté de m'emmener pour me vendre après l'avoir tué. Nous habitions alors la province de Tenasserim, dans la partie la plus déserte des monts Mog, en face de l'archipel de Mergui. Nous demeurions cachés tout le jour dans les rochers, et nous ne sortions que la nuit. Aor montait sur mon cou et me conduisait au bain sans crainte des alligators et des crocodiles, dont je savais le préserver en enterrant nonchalamment dans le sable leur tête, qui se brisait sous mon pied. Après le bain, nous errions dans les hautes forêts, où je choisissais les branches dont j'étais friand et où je cueillais pour Aor des fruits que je lui passais avec ma trompe. Je faisais aussi ma provision de verdure pour la journée. J'aimais surtout les écorces fraîches, et j'avais une adresse merveilleuse pour les détacher de la tige jusqu'au plus petit brin. Mais il me fallait du temps pour dépouiller ainsi le bois, et je m'approvisionnais de branches pour les loisirs de la journée, en prévision des heures où je ne dormais pas. Heures assez courtes, je dois le dire. L'éléphant livrait à lui-même et noctambule de préférence. Mon existence était douce et tout absorbée dans le présent. Je ne me représentais pas l'avenir. Je commençais à réfléchir sur moi-même un jour que les hommes de la tribu amenèrent dans mon parc de bambous une troupe d'éléphants sauvages qu'ils avaient chassés au flambeau avec un grand bruit de tambours et de cymbales pour les forcer à se réfugier dans ce piège. On y avait amené d'avance des éléphants apprivoisés qui devaient aider les chasseurs à dompter les captifs et qui les aidèrent en effet avec une intelligence extraordinaire à lier les 4 jambes l'une après l'autre. Mais quelques mâles sauvages, les solitaires surtout, étaient si furieux qu'on crut devoir m'adjoindre aux chasseurs pour en venir à bout. On força mon cher Aor à me monter, et il essaya d'obéir bien qu'avec une vive répugnance. Je sentis alors le sentiment du juste se révéler à moi, et j'eus horreur de ce que l'on prétendait me faire faire. Ces éléphants sauvages étaient sinon mes égaux, du moins mes semblables. Les éléphants soumis qui aidaient à consommer l'esclavage de leurs frères me parurent tout à fait inférieurs à eux et à moi. Saisi de mépris et d'indignation, je m'attaquai à eux seuls et me portai à la défense des prisonniers si énergiquement que l'on dut renoncer à m'avilir. On me fit sortir du parc, et mon cher Ahor me combla d'éloges et de caresses. « Vous voyez bien, disait-il à ses compagnons, que celui-ci est un ange et un saint. Jamais éléphant blanc n'a été employé aux travaux grossiers ni aux actes de violence. Il n'est fait ni pour la chasse ni pour la guerre, ni pour porter des fardeaux, ni pour servir de monture dans les voyages. Les rois eux-mêmes ne se permettent pas de s'asseoir sur lui, et vous voulez qu'il s'abaisse à vous aider au domptage ? Non, vous ne comprenez pas sa grandeur et vous outragez son rang. » Ce que vous avez tenté de faire attirera sur vous la puissance des mauvais esprits. » Et comme on remontrait à mon ami qu'il avait lui-même travaillé à me dompter, « Je ne l'ai dompté, répondait-il, qu'avec mes douces paroles et le son de ma flûte. S'il me permet de le monter, c'est qu'il a reconnu en moi son serviteur fidèle, son maout dévoué. Sachez bien que le jour où l'on nous séparerait, l'un de nous mourrait, et souhaitez que ce soit moi, car du salut de la fleur sacrée dépend de la richesse et la gloire de votre tribu. » La fleur sacrée était le nom qu'il m'avait donné, et que nul ne songeait à me contester. Les paroles de mon maout m'avaient profondément pénétré. Je sentis que sans lui on m'eût avili, et je devins d'autant plus fier et plus indépendant. Je résolus, et je me tins parole, de ne jamais agir que par son conseil. Et tous deux d'accord, nous éloignâmes de nous quiconque ne nous traitait pas avec un profond respect. On lui avait offert de me donner pour société les éléphants les plus beaux et les mieux dressés. Je refusais absolument de les admettre auprès de ma personne, et seul avec Ahor, je ne m'ennuyais jamais. J'avais environ 15 ans, et ma taille dépassait déjà de beaucoup celle des éléphants adultes de l'Inde, lorsque nos députés revinrent annonçant que, le Raja des Birmans ayant fait les plus belles offres, le marché était conclu. On avait agi avec prudence. On ne s'était adressé à aucun des souverains du royaume de Siam, parce qu'ils eussent pu me revendiquer comme étant né sur leur terre et ne vouloir rien payer pour m'acquérir. Je fus donc adjugé au roi de Pagam et conduit de nuit très mystérieusement le long des côtes de Tenasserim jusqu'à Martaban, d'où, après avoir traversé les monts Karen, nous gagnâmes les rives du beau fleuve Irrawaddy. Il m'en avait coûté de quitter ma patrie et mes forêts. Je n'y eusse jamais consenti si Ahor ne m'eût dit sur sa flûte que la gloire et le bonheur m'attendaient sur d'autres rivages. Durant la route, je ne voulus pas le quitter un seul instant. Je lui permettais à peine de descendre de mon cou, et aux heures de sommeil, pour me préserver d'une poignante inquiétude, il dormait entre mes jambes. J'étais jaloux, et ne voulais pas qu'il reçût d'autre nourriture que celle que je lui présentais. Je choisissais pour lui les meilleurs fruits, et je lui tendais avec ma trompe le vase que je remplissais moi-même de l'eau la plus pure. Je l'éventais avec de larges feuilles. En traversant les bois et les jungles, j'abattais sans m'arrêter les arbustes épineux qui eussent pu l'atteindre et le déchirer. Je faisais enfin, mais mieux que tous les autres, tout ce que font les éléphants bien dressés, et je le faisais de ma propre volonté, non d'une manière banale, mais pour mon seul ami. Dès que nous eûmes atteint la frontière birmane, une députation du souverain vint au-devant de moi. Je fus inquiet du cérémonial qui m'entourait. Je vis que l'on donnait de l'or et des présents aux chasseurs malais qui m'avaient accompagné et qu'on les congédiait. Allait-on me séparer d'Ahor ? Je montrai une agitation effrayante et je menaçai les hauts personnages qui approchaient de moi avec respect. Ahor, qui me comprenait, leur expliqua mes craintes et leur dit que, séparé de lui, je ne consentirais jamais à les suivre. Alors, un des ministres chargés de ma réception et qui était resté sous une tente ôta ses sandales et vint à moi pour me présenter à genoux une lettre du roi des Birmans, écrite en bleu sur une longue feuille de palmier doré. Il s'apprêtait à m'en donner lecture lorsque je la pris de ses mains et la passai à mon maout pour qu'il me la traduisît. Il n'avait pas le droit, lui qui appartenait à une caste inférieure, de toucher à cette feuille sacrée. Il me pria de la rendre au seigneur ministre de sa majesté, ce que je fis aussitôt pour marquer ma déférence et mon amitié pour Ahor. Le ministre reprit la lettre sur laquelle on déplia une ombrelle d'or, et il lut. Très puissant, très aimé et très vénéré éléphant du nom de fleur sacrée, daignez venir résider dans la capitale de mon empire, où un palais digne de vous est déjà préparé. Par la présente lettre royale, moi, le roi des Birmans, je vous alloue un fief qui vous appartiendra en propre, un ministre pour vous obéir, une maison de 200 personnes, une suite de 50 éléphants, autant de chevaux et de bœufs que nécessitera votre service, 6 ombrelles d'or, un corps de musique et tous les honneurs qui sont dus à l'éléphant sacré, joie et gloire des peuples. On me montra le sceau royal, et comme je restais impassible et indifférent, on dut demander à mon maout si j'acceptais les offres du souverain. Ahor répondit qu'il fallait me promettre de ne jamais me séparer de lui, et le ministre, après avoir consulté ses collègues, jura ce que j'exigeais. Alors je montrai une grande joie en caressant la lettre royale, l'ombrelle d'or et un peu le visage du ministre, qui se déclara très heureux de m'avoir satisfait. Quoique très fatigué d'un long voyage, je témoignai que je voulais me mettre en marche pour voir ma nouvelle résidence et faire connaissance avec mon collègue et mon égal, le roi de Birmanie. Ce fut une marche triomphale tout le long du fleuve que nous remontions. Ce fleuve Irrawaddy était d'une beauté sans égale. Il coulait, tantôt nonchalant, tantôt rapide, entre des rochers couverts d'une végétation toute nouvelle pour moi, car nous nous avancions vers le nord, et l'air était plus frais, sinon plus pur, que celui de mon pays. Tout était différent. Ce n'était plus le silence et la majesté du désert. C'était un monde de luxe et de fête. Partout sur le fleuve, des barques à la poupe élevée en forme de croissant, garnies de banderoles de soie lamées d'or, suivies de barques de pêcheurs, ornées de feuillages et de fleurs. Sur le rivage, des populations riches sortaient de leurs habitations élégantes pour venir s'agenouiller sur mon passage et m'offrir des parfums. Des bandes de musiciens et de prêtres accourus de toutes les pagodes mêlaient leurs chants au son de l'orchestre qui me précédait. Nous avancions à très petites journées dans la crainte de me fatiguer, et 2 ou 3 fois par jour on s'arrêtait pour mon bain. Le fleuve n'était pas toujours guéable sur les rives. Ahor me laissait sonder avec ma trompe. Je ne voulais me risquer que sur le sable le plus fin et dans l'eau la plus pure. Une fois sûr de mon point de départ, je m'élançais dans le courant, si rapide et si profond qu'il pût être, portant toujours sur mon cou le confiant Ahor, qui prenait autant de plaisir que moi à cet exercice et qui, aux endroits difficiles et dangereux, ranimait mon ardeur et ma force en jouant sur sa flûte un chant de notre pays, tandis que mon cortège et la foule pressée sur les deux rives exprimaient leur anxiété ou leur admiration par des cris, des prosternations et des invocations de bras tendus vers moi. Les ministres, inquiets de l'audace d'Ahor, délibéraient entre eux s'ils ne devaient pas m'interdire d'exposer ainsi ma vie précieuse au salut de l'Empire. Mais Ahor, jouant toujours de la flûte sur ma tête au ras du flot, et ma trompe relevée comme le cou d'un paon gigantesque, témoignait de notre sécurité. Quand nous revenions lentement et paisiblement au rivage, tous accouraient vers moi avec des génuflexions ou des cris de triomphe, et mon orchestre déchirait les airs de ses fanfares éclatantes. Cet orchestre ne me plut pas le premier jour. Il se composait de trompettes au son aigu, de trompes énormes, de gongs effroyables, de castagnettes de bambou et de tambours portés par des éléphants de service. Ces tambours étaient formés d'une cage ronde, richement travaillée, au centre de laquelle un homme accroupi sur ses jambes croisées frappait tour à tour avec 2 baguettes sur une gamme de cymbales sonores. Une autre cage, semblable extérieurement, était munie de timbales de divers métaux, et le musicien, également assis au centre et porté par un éléphant, en tirait de puissants accords. Ce grand bruit d'instruments terribles choqua d'abord mon oreille délicate. Je m'y habituai pourtant, et je pris plaisir aux étranges harmonies qui proclamaient ma gloire aux 4 vents du ciel. Mais je préférais toujours la musique de salon, la douce harpe birmane, gracieuse imitation des jonques de l'Irrawaddy, le caïman, harmonica aux touches d'acier, dont les sons ont une pureté angélique, et par-dessus tout la suave mélodie que me faisait entendre Ahore sur sa flûte de roseau. Un jour qu'il jouait sur un certain rythme saccadé, au milieu du fleuve, nous fûmes entourés d'une foule innombrable de gros poissons dorés à la manière des pagodes qui dressaient leurs têtes hors de l'eau comme pour nous implorer. Ahore leur jeta un peu de riz, dont il avait toujours un petit sac dans sa ceinture. Ils manifestèrent une grande joie et nous accompagnèrent jusqu'au rivage, et comme la foule se récriait, je pris délicatement un de ces poissons et le présentai au premier ministre, qui le baisa et ordonna que sa dorure fût vite rehaussée d'une nouvelle couche, après quoi on le remit dans l'eau avec respect. J'appris ainsi que c'étaient les poissons sacrés de l'Irrawaddy, qui résident en un seul point du fleuve et qui viennent à l'appel de la voix humaine, n'ayant jamais rien eu à redouter de l'homme. Nous arrivâmes enfin à Pagam, une ville de 4 à 5 lieues d'étendue le long du fleuve. Le spectacle que présentait cette vallée de palais, de temples, de pagodes, de villas et de jardins me causa un tel étonnement que je m'arrêtai comme pour demander à mon maout si ce n'était pas un rêve. Il n'était pas moins ébloui que moi, et posant ses mains sur mon front que ses caresses pétrissaient sans cesse, « Voilà ton empire, me dit-il. Oublie les forêts et les jungles, te voici dans un monde d'or et de pierreries. » C'était alors un monde enchanté, en effet. Tout était ruisselant d'or et d'argent, de la base au faîte des 1000 temples et pagodes qui remplissaient l'espace et se perdaient dans les splendeurs de l'horizon. Le bouddhisme ayant respecté les monuments de l'ancien culte, la diversité était infinie. C'étaient des masses imposantes, les unes trapues, les autres élevées comme des montagnes à pic, des coupoles immenses en forme de cloche, des chapelles surmontées d'un œuf monstrueux, blanc comme la neige, enchâssé dans une base dorée, des toits longs superposés sur des piliers à jour, autour desquels se tordaient des dragons étincelants, dont les écailles de verre de toutes couleurs semblaient faites de pierres précieuses. Des pyramides formées d'autres toits laqués d'or vert, bleu, rouge, étagées en diminuant jusqu'au faîte, d'où s'élançait une flèche d'or immense terminée par un bouton de cristal qui resplendissait comme un diamant monstre au feu du soleil. Plusieurs de ces édifices élevés sur le flanc du ravin avaient des perrons de 300 et 400 marches avec des terrassements d'une blancheur éclatante qui semblaient taillés dans un seul bloc du plus beau marbre. C'étaient des revêtements de collines entières faites d'un ciment de corail blanc et de nacre pilé. Au flanc de certains édifices, sur les faîtières, à tous les angles des toits, des monstres fantastiques en bois de santal, tout bossués d'or et d'émail, semblaient s'élancer dans le vide ou vouloir mordre le ciel. Ailleurs, des édifices de bambou, tout à jour et d'un travail exquis. C'était un entassement de richesses folles, de caprices déréglés. La morne splendeur des grands monastères noirs, d'un style antique et farouche, faisait ressortir l'éclat scintillant des constructions modernes. Aujourd'hui, ces magnificences inouïes ne sont plus. Alors, c'était un rêve d'or, une fable des contes orientaux réalisée par l'industrie humaine. Aux portes de la ville, nous fûmes reçus par le roi et toute la cour. Le monarque descendit de cheval et vint me saluer. Puis on me fit entrer dans un édifice où l'on procéda à ma toilette de cérémonie que le roi avait apportée dans un grand coffre de bois de cèdre incrusté d'ivoire, porté par le plus beau et le plus paré de ses éléphants. Mais comme j'éclipsais ce luxueux subalterne quand je parus dans mon costume d'apparat. Ahore commença par me laver et me parfumer avec grand soin. Puis on me revêtit de longues bandes écarlates, tissées d'or et de soie, qui se drapaient avec art autour de moi, sans cacher la beauté de mes formes et la blancheur sacrée de mon pelage. On mit sur ma tête une tiare en drap écarlate, ruisselante de gros diamants et de merveilleux rubis. on ceignit mon front des 9 cercles de pierres précieuses, ornements consacrés qui conjurent l'influence des mauvais esprits. Entre mes yeux brillait un croissant de pierreries et une plaque d'or où se lisaient tous mes titres. Des glands d'argent du plus beau travail furent suspendus à mes oreilles, des anneaux d'or et d'émeraudes, saphirs et diamants furent passés dans mes défenses, dont la blancheur et le brillant attestaient ma jeunesse et ma pureté. Deux larges boucliers d'or massif couvrirent mes épaules. Enfin, un coussin de pourpre fut placé sur mon cou, et je vis avec joie que mon cher Ahor avait un sarron de soie blanche broché d'argent, des bracelets de bras et de jambes en or fin, et un léger châle du cachemire blanc le plus moelleux roulé autour de la tête. Lui aussi était lavé et parfumé. Ses formes étaient plus fines et mieux modelées que celles des Birmans. Son teint était plus sombre, ses yeux plus beaux. Il était jeune encore, et quand je le vis recevoir, pour me conduire, une baguette toute incrustée de perles fines et toute cerclée de rubis, je fus fier de lui et l'enlaçai avec amour. On voulut lui présenter la légère échelle de bambou qui sert à escalader les montures de mon espèce et qu'on leur attache ensuite au flanc pour être à même d'en descendre à volonté. Je repoussai cet emblème de servitude, je me couchai et j'étendis ma tête de manière que mon ami pût s'y asseoir sans rien déranger à ma parure, puis je me relevai si fier et si imposant que le roi lui-même fut frappé de ma dignité et déclara que jamais éléphant sacré si noble et si beau n'avait attesté et assuré la prospérité de son empire. Notre défilé jusqu'à mon palais dura plus de 3 heures. Le sol était jonché de verdure et de fleurs. De 10 pas en 10 pas, des cassolettes placées sur mon passage répandaient de suaves parfums. L'orchestre du roi jouait en même temps que le mien. Des troupes de bayadères admirables me précédaient en dansant. De chaque rue qui s'ouvrait sur la rue principale, débouchaient des cortèges nouveaux composés de tous les grands de la ville et du pays qui m'apportaient de nouveaux présents et me suivaient sur 2 files. L'air chargé de parfums à la fumée bleue retentissait de fanfares qui eussent couvert le bruit du tonnerre. C'était le rugissement d'une tempête au milieu d'un épanouissement de délices. Toutes les maisons étaient pavoisées de riches tapis et d'étoffes merveilleuses. Beaucoup étaient reliées par de légers arcs de triomphe, ouvrages en rotin improvisé et pavoisés aussi avec une rare élégance. Du haut de ces portes à jour, des mains invisibles faisaient pleuvoir sur moi une neige odorante de fleurs de jasmin et d'oranger. On s'arrêta sur une grande place palissadée en arène pour me faire assister aux jeux et aux danses. Je pris plaisir à tout ce qui était agréable et fastueux, mais j'eus horreur des combats d'animaux, et en voyant 2 éléphants, rendus furieux par une nourriture et un entraînement particuliers, tordre avec rage leurs trompes enlacées et se déchirer avec leur défense, je quittai la place d'honneur que j'occupais et m'élançai au milieu de l'arène pour séparer les combattants. Ahor n'avait pas eu le temps de me retenir, et des cris de désespoir s'élevèrent de toutes parts. On craignait que les adversaires ne fondissent sur moi, mais à peine me virent-ils près d'eux, que leur rage tomba comme par enchantement, et qu'ils s'enfuirent éperdus et humiliés. Ahor, qui m'avait lestement rejoint, déclara que je ne pouvais supporter la vue du sang, et que d'ailleurs, après un voyage de plus de 500 lieues, j'avais absolument besoin de repos. Le peuple fut très ému de ma conduite, et les sages du pays se prononcèrent pour moi, affirmant que le Bouddha condamnait les jeux sanglants et les combats d'animaux. J'avais donc exprimé sa volonté, et on renonça pour plusieurs années à ces cruels divertissements. On me conduisit à mon palais, situé au-delà de la ville, dans un ravin délicieux au bord du fleuve. Ce palais était aussi grand et aussi riche que celui du roi. Outre le fleuve, j'avais dans mon jardin un vaste bassin d'eau courante pour mes ablutions de chaque instant. J'étais fatigué. Je me plongeai dans le bain et me retirai dans la salle qui devait me servir de chambre à coucher, où je restai seul avec Ahor après avoir témoigné que j'avais assez de musique et ne voulais d'autre société que celle de mon ami. Cette salle de repos était une coupole imposante, soutenue par une double colonnade de marbre rose. Des étoffes du plus grand prix fermaient les issues et retombaient en gros plis sur le parquet de mosaïque. Mon lit était un amas odorant de bois de santal réduit en fine poussière. Mon auge était une vasque d'argent massif où quatre personnes se fussent baignées à l'aise. Mon râtelier était une étagère de laque dorée, couverte des fruits les plus succulents. Au milieu de la salle, un vase colossal en porcelaine du Japon laissait retomber en cascade un courant d'eau pure qui se perdait dans une corbeille de lotus. Sur le bord de la vasque de jade, des oiseaux d'or et d'argent émaillés de mille couleurs chatoyantes semblaient se pencher pour boire. Des guirlandes de spathe, de pandanus odorants se balançaient au-dessus de ma tête. Un immense éventail, le Pendjab des palais de l'Inde, mis en mouvement par des mains invisibles, m'envoyait un air frais sans cesse renouvelé du haut de la coupole. À mon réveil, on fit entrer divers animaux apprivoisés, de petits singes, des écureuils, des cigognes, des phénicoptères, des colombes, des cerfs et des biches de cette jolie espèce qui n'a pas plus d'une coudée de haut. Je m'amusais un instant de cette société enjouée, mais je préférais la fraîcheur et la propreté immaculée de mon appartement à toutes ces visites, et je fis connaître que la société des hommes convenait mieux à la gravité de mon caractère. Je vécus ainsi de longues années dans la splendeur et les délices avec mon cher Ahor. Nous étions de toutes les cérémonies et de toutes les fêtes. Nous recevions la visite des ambassadeurs étrangers. Nul sujet n'approchait de moi que les pieds nus et le front dans la poussière. J'étais comblé de présents et mon palais était un des plus riches musées de l'Asie. Les prêtres les plus savants venaient me voir et converser avec moi, car ils trouvaient ma vaste intelligence à la hauteur de leurs plus beaux préceptes, et prétendaient lire dans ma pensée à travers mon large front toujours empreint d'une sérénité sublime. Aucun temple ne m'était fermé, et j'aimais à pénétrer dans ces hautes et sombres chapelles où la figure colossale de Gautama, ruisselante d'or, se dressait comme un soleil au fond des niches éclairées d'en haut. Je croyais revoir le soleil de mon désert, et je m'agenouillais devant lui, donnant ainsi l'exemple aux croyants édifiés de ma piété. Je savais même présenter des offrandes à l'idole vénérée et balancer devant elle l'encensoir d'or. Le roi me chérissait et veillait avec soin à ce que ma maison fût toujours tenue sur le même pied que la sienne. Mais aucun bonheur terrestre ne peut durer. Ce digne souverain s'engagea dans une guerre funeste contre un état voisin. Il fut vaincu et détrôné. L'usurpateur le relégua dans l'exil et ne lui permit pas de m'emmener. Il me garda comme un signe de sa puissance et un gage de son alliance avec le Bouddha. Mais il n'avait pour moi ni amitié ni vénération et mon service fut bientôt négligé. Ahor s'en affecta et s'en plaignit. Les serviteurs du nouveau prince le prirent en haine et résolurent de se défaire de lui. Un soir, comme nous dormions ensemble, ils pénétrèrent sans bruit chez moi et le frappèrent d'un poignard. Éveillé par ses cris, je fondis sur les assassins qui prirent la fuite. Mon pauvre Ahor était évanoui, son sarong était taché de sang. Je pris dans le bassin d'argent toute l'eau dont je l'aspergeais sans pouvoir le ranimer. Alors je me souvins du médecin qui était toujours de service dans la pièce voisine. J'allai l'éveiller et je l'amenai auprès d'Ahor. Mon ami fut bien soigné et revint à la vie, mais il resta longtemps affaibli par la perte de son sang, et je ne voulus plus sortir ni me baigner sans lui. La douleur m'accablait, je refusais de manger. Toujours couché près de lui, je versais des larmes et lui parlais avec mes yeux et mes oreilles pour le supplier de guérir. On ne rechercha pas les assassins. On prétendit que j'avais blessé Ahor par mégarde avec une de mes défenses, et on parla de me les scier. Ahor s'indigna et jura qu'il avait été frappé avec un stylet. Le médecin, qui savait bien à quoi s'en tenir, n'osa pas affirmer la vérité. Il conseilla même à mon ami de se taire s'il ne voulait hâter le triomphe des ennemis qui avaient juré sa perte. Alors, un profond chagrin s'empara de moi, et la vie civilisée à laquelle on m'avait initié me parut la plus amère des servitudes. Mon bonheur dépendait du caprice d'un prince qui ne savait ou ne voulait pas protéger les jours de mon meilleur ami. Je pris en dégoût les honneurs hypocrites qui m'étaient encore rendus pour la forme. Je reçus les visites officielles avec humeur. Je chassai les bayadères et les musiciens qui troublaient le faible et pénible sommeil de mon ami. Je me privais le plus possible de dormir pour veiller sur lui. J'avais le pressentiment d'un nouveau malheur, et dans cette surexcitation du sentiment, je subis un phénomène douloureux, celui de retrouver la mémoire de mes jeunes années. Je revis dans mes rêves troublés l'image longtemps effacée de ma mère assassinée en me couvrant de son corps percé de flèches. Je revis aussi mon désert, mes arbres splendides, mon fleuve Ténacérim, ma montagne d'Ophir et ma vaste mer étincelante à l'horizon. La nostalgie s'empara de moi, l'idée de fuir domina impérieusement mes rêveries. Mais je voulais fuir avec Ahor, et le pauvre Ahor, couché sur le flanc, pouvait à peine se soulever pour baiser mon front penché vers lui. Une nuit, malade moi-même, épuisé de veille et succombant à la fatigue, je dormis profondément durant quelques heures. À mon réveil, je ne vis plus Ahor sur sa couche, et je l'appelai en vain. Éperdu, je sortis dans le jardin. Je cherchai au bord de l'étang. Mon odorat me fit savoir qu'Ahor n'était point là, et qu'il n'y était pas venu récemment. Grâce à la négligence qui avait gagné mes serviteurs, je pus ouvrir moi-même les portes de l'enclos et sortir des palissades. Alors je sentis le voisinage de mon ami et m'élançai dans un bois de tamarin qui tapissait la colline. À une courte distance, j'entendis un cri plaintif et je me précipitai dans un fourré où je vis Ahor lié à un arbre et entouré de scélérats prêts à le frapper. D'un bond, je les renversai tous. Je les foulai aux pieds sans pitié. Je rompis les liens qui retenaient Ahor. Je le saisis délicatement. Je l'aidai à se placer sur mon cou et, prenant l'allure rapide et silencieuse de l'éléphant en fuite, je m'enfonçai au hasard dans les forêts. À cette époque, la partie de l'Inde où nous nous trouvions offrait le contraste heurté des civilisations luxueuses à deux pas des déserts inexplorables. J'eus donc bientôt gagné les solitudes sauvages des monts Karens et quand, à bout de force, je me couchai sur les bords d'un fleuve plus direct et plus rapide que l'Irrawaddy, nous étions déjà à 30 lieues de la ville birmane. Ahor me dit « Où allons-nous ? Ah, je le vois dans tes regards. Tu veux retourner dans nos montagnes, mais tu crois y être déjà et tu t'abuses. Nous en sommes bien loin et nous ne pourrons jamais y arriver sans être découverts et repris. D'ailleurs, quand nous échapperions aux hommes, nous ne pourrions aller loin sans que, malade comme je suis, je meurs. Et alors, comment te dirigeras-tu sans moi dans cette route lointaine? Laisse-moi ici, car c'est à moi seul qu'on en veut, et retourne à Pagam où personne n'osera te menacer. » Je lui témoignai que je ne voulais ni le quitter, ni retourner chez les Birmans, que s'il mourait, je mourrais aussi, qu'avec de la patience et du courage, nous pouvions redevenir heureux. Il se rendit, et, après avoir pris du repos, nous nous remîmes en route. Au bout de quelques jours de voyage, nous avions recouvré tous deux la santé, l'espoir et la force. L'air libre de la solitude, l'austère parfum des forêts, la saine chaleur des rochers, nous guérissaient mieux que toutes les douceurs du faste et tous les remèdes des médecins. Cependant, Ahor était parfois effrayé de la tâche que je lui imposais. Enlever un éléphant sacré, c'était, en cas d'insuccès, se dévouer au plus atroce supplice. Il me disait ses craintes sur une flûte de roseau qu'il s'était faite et dont il jouait mieux que jamais. J'étais arrivé à un exercice de la pensée presque égal à celui de l'homme. Je lui fis comprendre ce qu'il fallait faire en me couvrant d'une vase noire qui s'étalait au bord du fleuve et dont je m'aspergeais avec adresse. Frappé de ma pénétration, il recueillit divers sucs de plantes dont il connaissait bien les propriétés. Il en fit une teinture qui me rendit, sauf la taille, entièrement semblable aux éléphants vulgaires. Je lui indiquai que cela ne suffisait pas et qu'il fallait, pour me rendre méconnaissable, scier mes défenses. Il ne s'y résigna pas. J'étais à ma 6e dentition et il craignait que mes crochets ne pussent repousser. Il jugea que j'étais suffisamment déguisé et nous nous remîmes en route. Quelque peu fréquenté que fût ce chemin de montagne, ce fut miracle que d'échapper au danger de notre entreprise. Jamais nous n'y fussions parvenus l'un sans l'autre. Mais dans l'union intime de l'intelligence humaine, avec une grande force animale, une puissance exceptionnelle s'improvise. Si les hommes avaient su s'identifier aux animaux assez complètement pour les amener à s'identifier à eux, ils n'auraient pas trouvé en eux des esclaves parfois rebelles et dangereux, souvent surmenés et insuffisants. Ils auraient eu d'admirables amis et ils eussent résolu le problème de la force consciente sans avoir recours aux forces aveugles de la machine, animal plus redoutable et plus féroce que les bêtes du désert. À force de prudence et de persévérance, quelquefois harcelés par des bandits que je sus mettre en fuite et dont je ne craignais ni les lances ni les flèches, revêtus que j'étais d'une légère armure en écailles de bois de fer, Cahors avait su me fabriquer. Nous parvînmes au fleuve Ténacérim. Notre direction n'avait pas été difficile à suivre. Outre que nous nous rappelions très bien l'un et l'autre ce voyage que nous avions déjà fait, la construction géologique de l'Indochine est très simple. Les longues arêtes de montagnes, séparées par des vallées profondes et de larges fleuves, se ramifient médiocrement et s'inclinent sans point d'arrêt sensible jusqu'à la mer. Les monts Karen se relient au mont Mog en ligne presque droite. Nous fîmes très rarement fausse route et nos erreurs furent rapidement rectifiées. Je dois dire que, de nous deux, j'étais toujours le plus prompt à retrouver la vraie direction. Nous n'approchâmes de nos anciennes demeures qu'avec circonspection. Il nous fallait vivre seuls et en liberté complète. Nous fûmes servis à souhait. La tribu, enrichie par la vente de ma personne à l'ancien roi des Birmans, avait quitté ses villages de roseaux, et nos forêts, dépeuplées d'animaux à la suite d'une terrible sécheresse, avaient été abandonnées par les chasseurs. Nous pûmes y faire un établissement plus libre et plus sûr encore que par le passé. Ahor ne possédait absolument rien et ne regrettait rien de notre splendeur évanouie. Sans amis, sans famille, il ne connaissait et n'aimait plus que moi sur la terre. Je n'avais jamais aimé que ma mère et lui. Une si longue intimité avait détruit entre nous l'obstacle apporté par la nature à notre assimilation. Nous conversions ensemble comme deux êtres de même espèce. Ma pantomime était devenue si réfléchie, si sobre, si expressive, qu'il lisait dans ma pensée comme moi dans la sienne. Il n'avait même plus besoin de me parler. Je le sentais triste ou gai selon le mode et les inflexions de sa flûte, et, notre destinée étant commune, je me reportais avec lui dans les souvenirs du passé où je me plongeais dans la béate extase du présent. Nous passâmes de longues années dans les délices de la délivrance. Ahor était devenu bouddhiste fervent en Birmanie et ne vivait plus que de végétaux. Notre subsistance était assurée et nous ne connaissions plus ni la souffrance ni la maladie. Mais le temps marchait et Ahor était devenu vieux. J'avais vu ses cheveux blanchir et ses forces décroître. Il me fit comprendre les effets de l'âge et m'annonça qu'il mourrait bientôt. Je prolongeai sa vie en lui épargnant toute fatigue et tout soin. Un moment vint où il ne put pourvoir à ses besoins. Je lui apportai sa nourriture et je construisais ses abris. Il perdit la chaleur du sang et, pour se réchauffer, il ne quittait plus le contact de mon corps. Un jour, il me pria de lui creuser une fosse parce qu'il se sentait mourir. J'obéis et il s'y coucha sur un lit d'herbage, enlaça ses bras autour de ma trompe et me dit adieu. Puis ses bras retombèrent. Il resta immobile et son corps se raidit. Il n'était plus. Je recouvris la fosse comme il me l'avait commandée et je me couchai dessus. Avais-je bien compris la mort? je le pense, et pourtant je ne me demandais pas si la longévité de ma race me condamnait à lui survivre beaucoup. Je ne pris pas la résolution de mourir aussi. Je pleurais et j'oubliais de manger. Quand la nuit fut passée, je n'eus aucune idée d'aller au bain ni de me mouvoir. Je restais plongé dans un accablement absolu. La nuit suivante me trouva inerte et indifférent. Le soleil revint encore une fois et me trouva mort. L'âme fidèle et généreuse d'Ahor avait-elle passé en moi? Peut-être. J'ai appris dans d'autres existences qu'après ma disparition, l'empire birman avait éprouvé de grands revers. La royale ville de Pagam fut abandonnée par le conseil des prêtres de Gautama. Le Bouddha était irrité du peu de soins qu'on avait eu de moi. Ma fuite témoignait de son mécontentement. Les riches emportèrent leurs trésors et se bâtirent de nouveaux palais sur le territoire d'Ava. Plus tard, ils abandonnèrent encore cette ville somptueuse pour Amarapura. Les pauvres emportèrent à dos de chameaux leurs maisons de rotin pour suivre les maîtres du pays loin de la cité maudite. Pagam avait été le séjour et l'orgueil de 45 rois consécutifs. Je l'avais condamnée en la quittant. Elle n'est plus aujourd'hui qu'un grandiose amas de ruines.
« Votre histoire m'a amusée, » dit alors à Sir William la petite fille qui lui avait déjà parlé. « Mais à présent, puisque nous avons tous été des bêtes avant d'être des personnes, je voudrais savoir ce que nous serons plus tard, car enfin, tout ce que l'on raconte aux enfants doit avoir une moralité à la fin, et je ne vois pas venir la vôtre. »«
Ma sœur a raison, » dit un jeune homme qui avait écouté Sir William avec intérêt. Si c'est une récompense d'être homme après avoir été chien honnête ou éléphant vertueux, l'homme honnête et vertueux doit aussi avoir la sienne en ce monde.
Sans aucun doute, répondit Sir William. La personnalité humaine n'est pas le dernier mot de la création sur notre planète. Les savants les plus modernes sont convaincus que l'intelligence progresse d'elle-même par la loi qui régit la matière. Je n'ai pas besoin d'entrer dans cet ordre d'idées pour vous dire qu'esprit et matière progressent de compagnie. Ce qu'il y a de certain pour moi, c'est que tout être aspire à se perfectionner et que, de tous les êtres, l'homme est le plus jaloux de s'élever au-dessus de lui-même. Il y est merveilleusement aidé par l'étendue de son intelligence et par l'ardeur de son sentiment. Il sent qu'il est un produit encore très incomplet de la nature et qu'une race plus parfaite doit lui succéder par voie ininterrompue de son propre développement.
« Je ne comprends pas bien. » reprit la petite fille. Deviendrons-nous des anges avec des ailes et des robes d'or?
Parfaitement, répondit Sir William. Les robes d'or sont des emblèmes de richesse et de pureté. Nous deviendrons tous riches et purs. Les ailes, nous saurons les trouver. La science nous les donnera pour traverser les airs, comme elle nous a donné les nageoires pour traverser les mers.
Oh, nous voilà retombés dans les machines que vous maudissiez tout à l'heure.
Les machines feront leur temps comme nous ferons le nôtre, repartit Sir William. L'animalité fera le sien et progressera en même temps que nous. Qui vous dit qu'une race d'aigles aussi puissant que les ballons et aussi docile que les chevaux ne surgira pas pour s'associer aux voyages aériens de l'homme futur? Est-ce une simple fantaisie poétique que ces dieux de l'Antiquité portés ou traînés par des lions, des dauphins ou des colombes? N'est-ce pas plutôt une sorte de vue prophétique de la domestication de toutes les créatures associées à l'homme divinisé de l'avenir? Oui, l'homme doit dès ce monde devenir ange, si par ange vous entendez un type d'intelligence et de grandeur morale supérieure au nôtre. Il ne faut pas un miracle païen, il ne faut qu'un miracle naturel, comme ceux qui se sont déjà tant de fois accomplis sur la terre, pour que l'homme voie changer ses besoins et ses organes en vue d'un milieu nouveau. J'ai vu des races entières s'abstenir de manger la chair des animaux. Un grand progrès de la race entière sera de devenir frugivore, et les carnassiers disparaîtront. Alors fleurira la grande association universelle. L'enfant jouera avec le tigre comme le jeune Bacchus, l'éléphant sera l'ami de l'homme, les oiseaux de haut vol conduiront dans les airs nos chars ovoïdes, la baleine transportera nos messages, que sais-je ? Tout devient possible sur notre planète dès que nous supprimons le carnage et la guerre. Toutes les forces intelligentes de la nature, au lieu de s'entre-dévorer, s'organisent fraternellement pour soumettre et féconder la matière inorganique. Mais j'ai tort de vous esquisser ces merveilles. Vous êtes plus à même que moi, jeunes esprits qui m'interrogez, d'en évoquer les riantes et sublimes images. Il suffit que, du monde réel, je vous ai lancé dans le monde du rêve. Rêvez, imaginez, faites du merveilleux, vous ne risquez pas d'aller trop loin, car l'avenir du monde idéal auquel nous devons croire dépassera encore de beaucoup les aspirations de nos âmes timides et incomplètes.